Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial Cube.radio ou 1-877-827-2346.
1-877 Cube Radio.
Un sujet qui revient de manière inévitable, surtout dans les dernières années, là, à l'approche du 1er juillet, c'est vendredi d'ailleurs, pour ceux qui ont perdu le fil du temps, c'est bien évidemment avec la journée des déménagements, le logement, la crise du logement, les problèmes qu'on a à se trouver un logement assez spacieux, assez abordable, dans un endroit qui nous convient. C'est exacerbé à Montréal, mais ça frappe maintenant à peu près l'ensemble du Québec. Et c'est un enjeu, encore une fois, cette année, qui va être extrêmement important. Et aujourd'hui, il y a un rapport réalisé par l'Observatoire des tout-petits qui dévoile là les résultats d'un sondage, révèle que les besoins des parents d'enfants de 0 à 5 ans en matière de logement est déficient. Ça va mal. Il y a plusieurs parents, là, près d'un parent sondé sur trois, qui affirme que son niveau de stress en lien avec sa situation d'habitation actuelle est élevé. C'est encore plus grand, 47% chez les locataires. Ça monte à 55% chez les familles monoparentales. Et là, couplé à tout ça, l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Et on a un dangereux cocktail à l'approche du premier. Fanny Dagenais, la directrice de l'Observatoire des tout-petits, est avec nous en ce moment. Bonjour, Madame Dagenais.
Bonjour.
Madame Dagenais, tout d'abord, là, on a l'impression que la crise du logement, ça affecte que la situation financière. Mais au final, il y a des dommages collatéraux qui sont faits et beaucoup sont faits au niveau du développement de l'enfant. C'est ce qu'on décrit, entre autres, dans ce sondage qui est révélé de votre côté. Qu'est-ce qui vient, justement, là? Quels sont les dégâts, les dommages collatéraux qui sont faits dans le développement de l'enfant quand on a des problèmes, justement, là, à se trouver un logement?
Ben, écoutez, d'abord, le sondage nous révèle que 60% des parents locataires ont dû changer leurs habitudes pour être en mesure de continuer de payer leur loyer. Donc, par exemple, couper dans la facture d'épicerie, couper dans l'achat de vêtements ou encore dans les activités qu'on réalise avec les enfants. Alors ça, évidemment, ben, ce sont des conséquences directes sur la santé de l'enfant, sur sa qualité de vie, sur son développement également. Si on pense, par exemple, à un enfant qui ne mange pas suffisamment ou qui n'a plus une alimentation qui est suffisamment diversifiée, ça peut inévitablement avoir des répercussions sur sa santé et son développement. Et de plus, ben, plusieurs familles, compte tenu des coûts élevés, vont se contenter d'avoir un logement qui est trop petit, en fait, pour les besoins de leur famille. Et le fait de vivre dans un logement qui est surpeuplé, qui est bruyant, peut avoir des répercussions sur le développement de l'enfant, sur les interactions aussi entre les parents et les enfants, sur la capacité du parent à bien répondre aux besoins de son enfant. Et ça peut même augmenter le risque de maltraitance parce que les parents dorment mal, ils sont fatigués, ils sont à bout. Et c'est là que ces situations-là sont le plus susceptibles de se produire.
Oui, parce qu'il y a aussi, en même temps, s'ajoute à ça l'indisponibilité des parents. Ça peut avoir un effet, entre autres, sur le plan émotionnel, du développement, de l'apprentissage, des bonnes pratiques sociales. Et tout ça, ben, ça donne suite aussi à la pandémie, hein, qui a été extrêmement difficile au niveau des apprentissages des enfants. Est-ce que c'est un dangereux cocktail auquel on assiste là, cette sortie de pandémie des enfants qui commencent à pouvoir resocialiser, mais qui peuvent être pénalisés justement par les conséquences là, indirectes de la crise du logement?
Bien, définitivement, c'est un enjeu qui mérite notre attention parce que ça touche la sécurité financière des familles, la sécurité alimentaire également. Et on voit que les sous-groupes qui ont été frappés le plus durement par la pandémie, notamment par les pertes d'emploi, la diminution des revenus, bien, ce sont les mêmes qui vivent ces difficultés plus grandes par rapport au logement. Donc, les familles locataires, les familles qui ont des revenus de moins de 40 000, les familles immigrantes, les familles monoparentales. Donc, ce sont vraiment celles qui sont davantage touchées par toutes ces problématiques de logement et dont la sécurité financière est le plus menacée. Donc, évidemment, il faut agir et la bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs leviers pour agir sur la question du logement au Québec.
Ben, c'est une bonne... Vous ouvrez toute grande une porte dans laquelle je voulais aller. Quels sont ces leviers? Parce que on a l'impression que c'est un phénomène, c'est un problème qui est tellement complexe. En fait, on en a deux ici qui sont multifactoriel, puis on a l'impression tellement grand à s'attaquer la crise du logement, mais qui est même pas juste au Québec, là, c'est partout la crise du logement. La crise du logement, mais aussi l'inflation. Comment on s'attaque à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Mais d'abord, des organismes du secteur du logement recommandent de mieux contrôler les hausses de loyers pour s'assurer que les logements soient abordables pour les familles. On parle également de resserrer les mesures pour contrôler la salubrité des logements, parce que ça aussi, c'est une conséquence. Les parents, parfois, doivent se contenter d'un logement non seulement trop petit pour leurs besoins, mais également avec qui va être mal entretenu, qui aura des problèmes de vernis ou encore de moisissure, et ça, ça a des conséquences sur la santé de toute la famille.
Ouais.
Donc, ça aussi, on peut agir à ce niveau-là. Et enfin, ben, de financer des projets de logements sociaux. Donc, et ça, c'est quelque chose au Québec qu'on pourrait vraiment développer davantage. Donc, on a 160 000 logements sociaux. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on se compare, par exemple, à l'Autriche, dont la population est comparable à celle du Québec, ils en ont 900 000. Et d'ailleurs, la ville de Vienne, c'est une des rares capitales d'Europe à ne pas connaître de crise du logement majeure. Donc, on voit que l'implantation de logements sociaux permet d'offrir des logements abordables aux familles, des logements qui sont adaptés aussi aux familles. Et on voudrait voir ces projets-là se multiplier au Québec.
Écoutez, en ce moment, au moment même où on se parle, j'ai la télévision ouverte dans mon studio. Puis au moment même où vous me parlez de logements sociaux, la ministre de l'Habitation, André Laforêt, est en ce moment en train de donner une conférence de presse. Il vient d'annoncer un partenariat pour 3000 logements abordables, 395 millions de dollars pour financer le logement abordable et social. Je vous prends sur le fait, par surprise, parce que je l'apprends en même temps que vous, comme ça, en direct. Est-ce que ça répond un peu à ce que vous venez tout juste là, de me dire, ou du moins en partie?
Bien, c'est certain que c'est une bonne nouvelle. Puis ce qui est intéressant avec les projets de logements sociaux, c'est que non seulement ça fournit des logements abordables et de qualité aux familles, mais en plus, il y a souvent des organismes qui vont se greffer au projet, des organismes de soutien aux parents ou encore des services d'échange de vêtements qui ne font plus aux enfants ou des potagers collectifs. Parfois, il y a même un centre de la petite enfance qui va être intégré au projet. Donc, ça fait en sorte que les parents peuvent avoir accès à des places pour leur enfant qui est vraiment à proximité là, de leur domicile. Alors, je pense qu'on peut vraiment se réjouir là, de toute mesure qui fait en sorte qu'on a davantage de ce type de projet au Québec.
Ben oui. Aussi, là, tantôt, je parlais de la pandémie. Pendant que je vous ai avec moi, je voulais pas vous quitter sans vous le demander, justement. Il y a eu des retards là, d'apprentissage, des retards de développement chez les enfants, entre autres à cause du manque de sociabilisation, d'apprentissage de langage, entre autres avec les masques et autres. Il y a eu plein de problèmes qui ont été soulevés là, pendant la pandémie. À part, évidemment, là, ce nouvel enjeu du logement, est-ce que ça a repris un peu? Est-ce qu'on est optimiste là, dans le développement des enfants au Québec post-pandémie?
Bien, c'est certain que les enfants ont été affectés par la pandémie, définitivement. Donc, on a parlé beaucoup là du port de masque qui pouvait nuire notamment à l'apprentissage du langage dans les services éducatifs à la petite enfance. Il y a aussi tout le stress qui a été vécu au sein des familles, les impacts socio-économiques également. Donc, beaucoup de familles se sont retrouvées à vivre l'insécurité alimentaire. Donc, évidemment, au cours des prochaines années, il faudra bien surveiller les impacts de la pandémie qui n'ont pas nécessairement tous été mesurés là, à l'heure actuelle et de se concentrer à offrir les meilleures conditions possibles aux familles et en particulier aux familles vulnérables. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les familles immigrantes, les familles qui ont des revenus plus faibles, les familles monoparentales, bien, c'est certain que cette crise du logement, la pandémie, ça fait beaucoup là, en quelques années.
Ouais.
Donc, il faut penser à ces familles-là, prévoir des mesures pour les soutenir financièrement, pour les aider aussi à avoir accès à un logement qui est abordable, parce que ça peut faire toute la différence dans un budget familial. Donc, je vous dirais qu'il faudra encore mesurer les impacts pour bien les comprendre. Et par contre, ben, je vous rassure en vous disant que les enfants sont très résilients. Ils ont su s'adapter à la pandémie et je pense qu'ils peuvent tout à fait rattraper pour ceux qui auraient cumulé certains retards sur le plan du développement, ben ça peut se rattraper, mais encore faut-il leur donner les bonnes conditions, accès à des services éducatifs à la petite enfance de qualité,
ouais.
Accès à un logement adéquat.
Accès à un logement adéquat. Vendredi, c'est le 1er juillet. Espérons que tous les tout-petits aient leur logement adéquat parce qu'ils le méritent. Madame Fanny Dagenais, directrice de l'Observatoire des tout-petits, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir. C'est ce qui conclut notre émission. Déjà une heure, ça passe toujours trop vite. Je remercie, comme d'habitude, mes charmants collaborateurs, Florence Lamoureux qui était en régie, Charlie Marchand également qui s'occupait de la technique. Il y a Achille Moinet aussi qui est là, qui fait de la mise en onde chez nous, qui fait des singeries de l'autre côté de la vitre comme ça, mais qui nous quitte bientôt à Cube Radio et ça me brise le cœur. Ça vaut la peine de le mentionner. Je le remercie d'avance pour tous les services rendus à la nation Cube Radio ici avec nous. Je vous laisse entre les bonnes mains d'Alexandre Dubé. Merci et à demain.